Bonjour, bonjour mamie.
Comment vas-tu?
Bien et vous?
Très bien.
Tu sais que l'on t'a vu à la télévision pour les 50 ans de la commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que tu pourrais nous raconter ton histoire?
Vous avez raison, c'est important que je vous raconte mon histoire. Il ne faut pas que la jeunesse l'oublie. Mon histoire a commencé avec l'union de mes deux parents, André Jacob et Yvonne Steinmetz, en 1922 à Nice. Ils ont donné la vie à mes deux grandes sœurs, Madeleine en 1923, Denise en 1924 et mon grand frère Jean en 1924. Nous sommes une famille juive non pratiquante, mais être juif dans les années 30 est difficile, car en France et en Allemagne, la montée du nazisme est inquiétante. Le régime allemand haïsse les juifs et l'antisémitisme s'est accéléré en France quand les Allemands ont envahi la France en 1945. La Seconde Guerre mondiale éclate alors que je n'avais que 11 ans. Et après ? J'ai essayé de continuer ma vie comme une jeune fille, mais les patrouilles allemandes sont nombreuses à Nice qui nous ont rappelé sans cesse que les juifs n'ont pas leur place ici. Un jour, en 1944, alors que je me promenais à Nice avec ma mère et ma sœur, Madeleine, nous nous sommes fait arrêter par deux soldats nazis. Ils ont regardé nos cartes d'identité. Les soldats ont vu que nous étions juifs. Ils nous ont envoyés dans un camp où on garde les juifs arrêtés en France jusqu'à ce qu'on soit envoyés dans un camp de concentration dans l'est de la France. Le 13 avril 1944, nous sommes envoyés dans le camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau. À ce moment donné, je suis triste car je ne reverrai peut-être plus ma famille et je suis en colère contre ce gouvernement qui haït autant les juifs.
Comment ça s'est passé dans le camp de concentration?
Nous sommes traités comme des animaux dès l'arrivée, on nous trie. Si on est majeur et en bonne santé, on travaille dans une usine. Autrement, on est envoyé dans les chambres à gaz. Soit 6 millions de juifs tués. J'ai réussi à survivre grâce à une voix dans la file qui m'a forcé à dire aux soldats que j'ai 18 ans. C'est ce que j'ai fait et cela m'a sauvé la vie. Je n'avais que 16 ans et j'étais assez forte pour travailler.
Comment peut-on faire ça à des personnes innocentes? Et comment étaient les conditions de vie?
Les conditions de vie sont déplorables dans les camps. Il fait froid, on a faim et l'odeur de la mort est constante autour de nous. Et les cadavres des survivants qui meurent de misère ou de maladies comme le typhus s'empilent autour de nous. Mais aussi, nous étions en colère. Les soldats allemands effacent nos identités. Ils nous tatouent des chiffres dès l'arrivée à notre poignet. Moi, j'avais le 78-651.
Pourquoi enlever une identité à une simple personne ?
En 1945, les soldats nazis nous ont déplacés dans un autre camp de concentration car les troupes russes s'approchent dangereusement de l'Autriche. C'est la marche de la mort, des kilomètres et des kilomètres de marche dans la misère, le froid et la faim. Nous craignons de mourir par les combats à proximité et le froid.
Quand es-tu entré en France ?
En mai 1945, les troupes anglaises nous ont libérés, mais malheureusement, les Anglais n'ont pas pu sauver ma mère qui a attrapé le typhus, qui fait des ravages dans les camps. Puis je suis rentrée en France avec ma sœur qui était souffrante, elle avait le typhus. Nous sommes accueillis chez ma tante et mon oncle qui habitent près de Paris. J'ai appris une malheureuse nouvelle, mon père et mon frère sont morts dans un autre camp de concentration durant la guerre.
L'après-guerre, c'est comment ?
Alors l'après-guerre, je suis stupéfaite parce que dans les journaux, les médias et autour de moi, on reste muet autour des massacres des juifs faits par les nazis. Mais je voulais en parler, mais c'était un sujet tabou à l'époque. Mais j'ai quand même pu continuer ma vie en commençant des études de droit.
C'est à ce moment que tu as rencontré papy ?
Oui, après mes études, j'ai commencé une carrière dans la magistrature et j'ai rencontré votre grand-père, Antoine, et à qui j'ai eu votre père, Jean, et vos oncles, Claude, Nicolas et Pierre-François. Ensuite, après mes études, je suis engagée comme inspectrice de l'état des prisons. J'ai mené un combat acharné pour améliorer les conditions de vie déplorables des prisonniers.
Quand t'engages-tu dans la politique ?
Je m'engage en politique en 1970. En 1974, le président Valéry Giscard d'Estaing m'a nommée ministre de la Santé et c'est à ce moment que je vais commencer ma lutte pour légaliser l'avortement. Grâce à mes efforts, le 17 janvier 1975, la loi Veil est entrée en vigueur. Cette loi évite la mort de nombreuses femmes provoquées par un avortement clandestin. Mais cette lutte n'a pas été de tout repos, car en présentant cette loi à l'Assemblée nationale, j'ai été huée en prononçant ce discours. Je voudrais partager une conviction de femme. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame et cela restera un drame. Nous ne pouvons plus fermer les yeux sur les 300 000 avortements qui chaque année mutilent des femmes de ce pays, qui bafouent nos lois et qui humilient et traumatisent celles qui en ont recours.
Waouh, c'est vraiment un discours magnifique. As-tu continué ensuite ?
Je suis la première femme à présider le Parlement européen de 1979 à 1982. J'essaye d'œuvrer pour la réconciliation de l'Europe avec l'Allemagne. Plus tard, je suis nommée ministre des Affaires sociales, de la Santé et de la Ville de 1993 à 1995. Je finis ma carrière politique en siégeant au Conseil constitutionnel.
Tu as vraiment une incroyable histoire.
Tu es vraiment une femme remarquable.